Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à tous. La solidarité européenne se met en place pour lutter contre la pandémie. La France va aider la République tchèque à surmonter la plus grave crise sanitaire à laquelle celle-ci est confrontée. Depuis l'arrivée de la Covid-19 il y a maintenant un an, 100 000 doses de vaccins seront envoyées à Prague d'ici la mi-mars. Les précisions de Guillaume Narguet.
Hôpitaux à bout de souffle, record de contamination, variant britannique qui s'impose, écoles fermées depuis Noël et restrictions déjà très strictes, encore renforcées, sans oublier une population chaque jour un peu plus lasse. Sur le front de la lutte contre le coronavirus, la situation ne cesse de se dégrader en République tchèque. Jeudi, un rayon de soleil a néanmoins percé l'annonce de l'aide prochaine que la France apportera sous la forme de 100 000 doses du vaccin Pfizer. En Europe, la France est le premier pays à avoir réagi à l'appel au secours lancé par le gouvernement tchèque. La République tchèque qui rendra la même quantité de doses une fois la crise passée. Selon les médias locaux, la France s'apprête à faire le même geste de solidarité vis-à-vis de la Slovaquie. Malgré l'urgence de sa situation, le gouvernement tchèque a décidé de n'utiliser que les vaccins autorisés par les autorités européennes et ainsi donc de ne pas recourir aux vaccins russes et chinois, à la différence notamment de la Hongrie, un de ses pays partenaires en Europe centrale. À Prague, pour Radio Vatican, Guillaume Narguet.
Le dispositif COVAX pour rendre les vaccins accessibles aux pays les plus pauvres fait lentement mais sûrement son chemin. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui a reçu 500 000 de doses de vaccins contre la Covid-19. Le pays d'Afrique de l'Ouest de 25 millions d'habitants enregistre près de 32 000 cas de coronavirus avec officiellement près de 200 morts. Début lundi de la campagne de vaccination. Journée de marche ce vendredi en Géorgie. Plusieurs milliers d'opposants ont défilé dans le pays pour demander de nouvelles élections et protester contre l'arrestation d'une figure de l'opposition. Le pays du Caucase est traversé par une crise politique depuis octobre et la victoire à un cheveu du parti au pouvoir Le Rêve géorgien aux législatives. La Crimée revient sur le devant des radars de la diplomatie américaine. Washington n'acceptera jamais l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie. Déclaration dans un communiqué marquant les 7 ans de la guerre de Crimée. Le conflit opposant les combattants soutenus par la Russie contre les troupes ukrainiennes a fait plus de 13 000 morts depuis 2014. Les nouvelles frappes américaines en Syrie contre des milices pro-iraniennes sévèrement critiquées par Damas. Cette agression est de mauvais augure, estime la diplomatie syrienne, qui espérait que cette nouvelle diplomatie américaine adhérerait à la légitimité internationale et non, je cite, à la loi de la jungle du président américain précédent. Cette opération militaire en Syrie est la première opération américaine depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. 22 personnes sont mortes, des frappes également vivement critiquées par Moscou. Il y a un an, en Algérie, le début de la pandémie sonnait le coup d'arrêt des manifestations du mouvement Irak qui entend changer le système algérien. Un an plus tard, jour pour jour, ils étaient aujourd'hui des milliers de citoyens dans les rues d'Alger pour montrer qu'ils n'ont pas peur et qu'ils ne lâcheront rien, malgré les interdictions de manifestations en raison de la situation sanitaire. Direction maintenant le Cameroun. L'ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, publie un rapport sur l'une des pires attaques de l'armée camerounaise contre les populations civiles dans les régions anglophones, régions secouées par des violences depuis désormais 4 ans. Hilaria Allegrosi est chercheuse pour l'ONG dans le pays. Elle revient sur le déroulé de cette sordide attaque.
C'était une attaque qui a eu lieu il y a un an dans un village de la région du sud-ouest, dans le village de Ebam. Une attaque qui a engendré les viols de au moins 20 femmes, l'arrestation arbitraire et le passage à tabac dans une base militaire de 35 hommes et aussi les meurtres d'un homme. Pendant cette opération militaire, les soldats ont également incendié une maison et pillé de nombreuses propriétés des biens des populations. Il est important de souligner, je pense, que l'attaque n'a pas été signalée depuis un an. C'est-à-dire que c'est une attaque qui n'a pas eu de véritable écho pendant plus d'un an, aussi à cause de la stigmatisation et de la peur des représailles de la part des survivantes des violences sexuelles. Parce que cela a effectivement découragé les survivantes de parler de ce qui leur était arrivé. Probablement, le nombre de ce type d'incident est plus élevé que celui qui a été documenté jusqu'à maintenant.
L'horreur de nouveau au Nigeria. 317 adolescentes ont été enlevées cette nuit dans leur pensionnat par des hommes armés dans le nord-ouest du pays. Vers 1h du matin, des hommes ont débarqué en voiture. Ils ont envahi les dortoirs et sont repartis à pied avec des centaines de filles. La pandémie de Covid-19 rebat les cartes politiques au Brésil et c'est le président Jair Bolsonaro qui tire son épingle du jeu. Très décrié à l'étranger pour son attitude lors de l'apparition du virus dans le pays début 2020, son refus du masque par exemple, la lenteur de la réaction des autorités pour endiguer la progression du virus, il est parvenu à maintenir un taux de satisfaction élevé parmi la population brésilienne de l'ordre de 40%. Et à poursuivre sa ligne anti-élite. Soutenu au début de son mandat par la droite et l'extrême droite, les classes aisées et les élites économiques, Jair Bolsonaro se fait maintenant le chantre des plus pauvres, les premières victimes de la pandémie. Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et responsable du programme Amérique latine Caraïbes, revient avec nous sur le repositionnement politique de Jair Bolsonaro et le changement d'alliance qu'il a opéré.
On a vu énormément de tensions autour du débat sur la stratégie à opposer à la propagation du Covid, débat stratégique autour du confinement ou du non-confinement, et autour de ce clivage qu'a savamment nourri Jair Bolsonaro, eh bien, c'est tout un repositionnement politique qui a opéré au Brésil, où Bolsonaro, finalement, a utilisé la pandémie pour nourrir sa confrontation avec le système, avec l'establishment brésilien, en cherchant à se positionner comme le défenseur des populations qui n'ont pas le loisir, la possibilité de pouvoir se confiner, de pouvoir compter sur un habitat confortable, sur des moyens financiers, une épargne qui permettent de faire face à la pandémie. Donc il s'est présenté comme le héros du petit peuple brésilien.
Les soutiens de Jair Bolsonaro lui ont tourné le dos, lui-même prétend défendre les intérêts des plus pauvres. Qu'en est-il exactement ?
L'affaire du Covid, elle est venue lui ôter une partie de ses soutiens, en particulier parmi les classes moyennes et supérieures urbaines, et puis aussi parce que Bolsonaro et sa famille sont désormais concernés directement par des affaires de corruption qui vont venir obscurcir d'ailleurs l'année prochaine la campagne présidentielle. Donc il a perdu ses soutiens là, donc c'est quand même assez important. Mais il a gagné en retour un autre électorat qui était plutôt des gens qui votaient avant pour Lula, et qui, parce que Bolsonaro non seulement les a défendus, dit-il, au nom du droit de travailler, du droit de la protection de l'économie, mais en plus il a mis en place un plan d'urgence financière, d'allocation, et manifestement ce plan lui a quand même permis d'avoir une adhésion assez importante dans ces populations précaires, vulnérables, voire pauvres.
Est-ce que ce changement de composition de sa majorité, entre guillemets, se vérifie également au Congrès ?
Oui, tout à fait. Il a perdu une partie de ses alliances au Congrès, en particulier avec les deux partis centraux, du centre-droit et de la droite, qui l'avaient appuyé en 2018. En revanche, Bolsonaro, tout en redirigeant sa politique vers les populations plus modestes et plus rurales, eh bien, a en même temps cédé une nouvelle alliance avec ce qu'on appelle le Centrao en portugais, qui est en français, on pourrait traduire comme le gros centre, qui est une coalition d'une quinzaine de partis qui, dans le Congrès, font un peu et défont les alliances en s'alliant avec les grands partis de gouvernement en contrepartie subsides, de postes dans les gouvernements, dans les hautes administrations. Donc aujourd'hui, il est dans une position plutôt solide au Congrès.
Voilà, interrogé par Xavier Sartre, Christophe Ventura était ce soir notre invité. Le retour de la formation, c'est demain matin à 8h30. Je vous souhaite une très belle soirée.